Chapitre 2. La nuit, le panneau lumineux Brigade criminelle, au néon bleuté, donnait à l'étroit couloir vide du troisième étage du 36 quai des Orfèvres des allures de vaisseaux abandonnés et lugubres, d'où pouvaient surgir les fantômes des pires assassins. Le voyageur imprudent se trompant de porte aurait risqué de tomber sur le séchoir, le local à l'odeur de viande faisandée, où l'on entreposait les vêtements ensanglantés des victimes de meurtre. Impossible en revanche de pénétrer sans la clé dans le musée des horreurs, comme on disait ici, où la brigade des stupes et du proxénétisme entassait toutes sortes de matériel illicite ou sadomasochiste saisi lors d'affaires, pipa opium, planche hérissée de pointes, appareils de torture, un vélo avec un gode rouge à la place de la selle, et où la crime exposait, entre autres, un album photo du japonais cannibale Sawaga. Un sacré spécimen, celui-là. En 1981, durant 3 jours, il avait avalé 7 kilos de chair de sa jeune victime dans un appartement de la rue Erlanger et pris 39 photos détaillant chacun de ses actes. Aujourd'hui, ils en plaisantaient, les gaillards de la PJ. Mais derrière les sourires, une moisissure invisible grandissait, se ramifiait, insidieuse, et finissait toujours par fendre les carapaces les plus solides. La plupart des hommes arpentant ce bâtiment étaient des écorchés vifs. Une lumière brillait encore, 3 étages plus bas dans les archives, au fond de la cour du 36, un endroit sans fenêtre qui sentait l'encre. Durant les 3 semaines qui avaient suivi son intégration à la prestigieuse brigade criminelle, le jeune inspecteur Franck Charcot y avait passé une grande partie de son temps. Il n'avait pas encore eu l'occasion de fouler le pavé, mais l'envie d'en découdre le démangeait. Il était tel un lévrier bloqué dans son box avant une course. Pour l'heure, il n'était qu'un bleu-bit, numéro 6 et dernier de son groupe d'enquête, un ripper de base collé sur l'affaire des disparus du sud parisien. Un dossier corsé. Entre 1986 et 1989, 3 femmes d'une 30aine d'années, Corinne, France et Isabelle, habitant respectivement les 15e, 13e et 12e arrondissements, avaient été enlevées dans les parkings souterrains de leurs immeubles et retrouvées dans des champs en banlieue, vêtements découpés dans le sens de la longueur, violées, frappées de multiples coups de couteau. Le premier meurtre avait défrayé la chronique. Quel être humain avait pu faire une chose pareille? Au troisième était apparu le terme de « crime à répétition », comme en Amérique. On avait montré à Charcot les photos des corps dès son arrivée, et ses équipiers avaient été là autour de lui pour voir sa tête et lui annoncer que toute cette crasse allait devenir son quotidien. Un poids qu'il porterait partout avec lui, jusqu'au fond des toilettes quand il finirait par cuver un mauvais alcool. C'était le destin de la grande lignée des inspecteurs de la crime, et s'il devait partir, qu'il le fasse maintenant. Il était resté. À raison de 10 heures par jour à plancher dessus, il connaissait désormais le dossier des disparus sur le bout des doigts. La dernière boucherie de l'assassin remontait à bientôt 3 ans, et depuis, plus rien. Au fil des années, les enquêteurs avaient récolté de nombreux éléments concrets sur le tueur. Individu masculin d'environ 1m80, large d'épaules, cheveux courts et sombres à l'époque du premier passage à l'acte, entre 40 et 50 ans, empreinte digitale relevée, groupe sanguin rhésus A+, manque de chance l'un des plus communs. On connaissait même le motif exact de ses pneus de voiture, imprimés dans la boue à proximité de l'un des corps. Le légiste avait identifié l'arme. Il s'agissait selon lui d'un couteau à lame courbe correspondant au modèle de la serpette Opinel numéro 8. Charcot était allé une semaine plus tôt en acheter un exemplaire dans une armurerie. Il s'était aussi rendu sur les lieux des crimes, pas plus tard qu'il y avait 15 jours et en pleine nuit, juste pour imaginer les corps nus, violentés, frappés pour l'un d'entre eux de 16 coups de lame dans la poitrine. 16. Au milieu des champs froids, Charcot avait senti la nausée l'envahir. De ses randonnées nocturnes, il n'avait parlé à personne, parce que nul n'allait s'imprégner de quoi que ce soit sur le terrain, en dehors des heures de boulot si longtemps après les meurtres. À quoi bon? Et parce qu'un ripper de base, un jeune gars à peine sorti de l'école des inspecteurs, n'avait pas à perdre son temps avec ce genre de délire. Son job à lui, c'était de prendre place entre ses immeubles de papier, de faire le sale boulot, de décortiquer ses dizaines de milliers de pages, de fiches, de fax, venus des 4 coins de la France. Chercher une aiguille dans une botte de foin, sans même avoir la certitude qu'il y ait une aiguille à trouver. En plus de ses déplacements secrets, Charcot s'était donc farci chaque PV des 1300 pages de la procédure. Les inspecteurs de son groupe avaient exploré d'innombrables pistes, s'étaient engouffrés dans la moindre hypothèse. Le voisinage de chaque victime, ses contacts, ses connaissances avaient été soupçonnés. Nombre d'individus s'étaient succédé dans les bureaux du 36 pour déposer ou subir un interrogatoire, parfois avec dureté quand manquaient les alibis. Les recherches s'étaient toutes soldées par des échecs. Chaque meurtre avait remis du charbon dans la machine. Les victimes fréquentant des piscines, quoique différentes, on s'était orienté vers un maître nageur, puis un habitué de ces endroits, et même un visiteur lambda. Le couteau à lame courbe, la minutie dans la découpe des vêtements suggéraient un jardinier ou un horticulteur. Alors on avait parcouru les magasins du sud de la capitale, établi des listes, fait du porte-à-porte. Vu la barbarie des viols, on s'était déplacé de greffe en greffe, de prison en prison, pour consulter les fiches de sortie des délinquants sexuels. Même les dossiers des patients des 5 principaux hôpitaux psychiatriques de la région parisienne avaient été passés au crible. Puisqu'on disposait d'une trace papillaire, des rippers s'étaient coltinés, une à une et à l'œil nu, les 140 000 fiches décadactylaires enfermées dans des sabots et stockées dans les sous-sols anguleux du service des archives et du traitement de l'information, le SATI. Des jours à se ruiner les yeux. Désormais, ces sillons digitaux étaient informatisés, centralisés, et régulièrement on lançait la bécane dans l'espoir qu'elle déniche une correspondance avec le tueur, en vain. Des centaines de convocations, de coups de fil, de nuits blanches, des milliers de procès-verbaux, le tout en 6 exemplaires, et l'homme courait toujours. Leur prédateur avait ciblé 3 immeubles sans concierge et nécessitant un code d'entrée, ce qui impliquait un repérage. Il avait frappé à des endroits différents, le sud de la capitale était très vaste, et n'avait, semble-t-il, plus versé le sang depuis environ 30 mois. Il pouvait être mort, avoir déménagé ou s'être arrêté de tuer. Mais l'enquête continuait. Les gars du 36 n'abandonnaient jamais. Charcot avait à son actif 5 ans de commissariat à Bruay-la-Buissière et 2 en banlieue lilloise. Là, à la section droit commun, il s'était occupé de la petite délinquance, puis avait enquillé sur 18 mois à l'école des inspecteurs de Cannes-Écluse. Il était sorti 2e de sa promo, gratifié des meilleures notes en tir et en sport. Il possédait un physique puissant et excellait en course à pied. Mais ses années de police dans le Nord et les cours théoriques, ça ne comptait pas ici. Jamais il n'avait assisté à une autopsie, ni travaillé sur une affaire criminelle d'envergure. Il repartait de zéro. À juste 30 ans, au lieu de l'envoyer dans la rue, on profitait de son regard neuf pour qu'il fouille parmi la monstrueuse masse des télégrammes qui remontaient chaque jour à l'état-major, au 2e étage du 36, en provenance de toutes les polices de France. L'idée était d'y collecter les agressions sexuelles, les atteintes aux mœurs, les meurtres. En résumé, tout acte qui pourrait, de près comme de loin, avoir un lien avec leur affaire. Si on violait à Marseille ou dans les environs de Nantes, si on tuait à l'arme de poing à Carcassonne, il fallait établir des recoupements, des comparaisons, passer des appels pour s'assurer que l'auteur des faits n'était pas l'homme qu'il traquait. Plus tôt dans la journée, avant de plonger le nez dans les télégrammes qui finissaient tous ici aux archives, Franck avait décelé une anomalie qui le perturbait dans la bulle. La bulle, c'était un ensemble de feuilles jaunes, numérotées, datées, rangées par ordre décroissant et maintenues entre elles par une reliure amovible, sur lesquelles les flics d'un groupe notaient tout ce qui leur passait par la tête lors d'une enquête. De simples sensations, des contrôles à effectuer, ou encore des idées saugrenues qui ne méritaient pas de procès-verbal officiel. Des impressions à la suite de l'interrogatoire d'un témoin, par exemple, ou un détail à considérer lors d'une perquisition. La bulle constituait la mémoire d'une équipe. Dans celle dédiée aux disparus, Charcot s'était aperçu qu'il manquait la page 146 sur un paquet qui en comportait 197. Seulement celle-là, au milieu d'événements qui s'étaient déroulés aux alentours de mai 1989, quelques semaines après le 3e et dernier meurtre. Charcot se focalisait sur ce détail sans doute pour rien. Il n'était pas impossible qu'un inspecteur l'eût jeté, embarqué pour une vérification ou fait tomber. À presque 22 heures, il repoussa le paquet de télégrammes qu'il venait d'explorer. Il en avait isolé 2 qui nécessitaient des coups de fil. Probable que ça ne donnerait rien et qu'il reviendrait ici pour poursuivre sa tâche fastidieuse encore et encore. On était loin de l'image qu'il se faisait du travail d'un flic au sein du service le plus prestigieux de France, mais il ne rechignait pas. Un moyen comme un autre d'apporter sa pierre à l'édifice. Fatigué par le rythme qu'il s'imposait depuis son arrivée, il enfila son blouson d'aviateur, emporta ses papiers, referma la salle et traversa la cour pavée. Le planton discutait avec un individu agité au niveau de la guérite de l'entrée.
« Que se passe-t-il » pensa Charcot en s'approchant des 2 hommes. « Je dois parler à la police !» lança l'inconnu d'une voix tendue.
Le souffle lui manquait.
À l'évidence, il avait couru jusqu'ici. Il colla une photo dans les mains de Charcot, comme pour s'en débarrasser. Sur le papier glacé, un plan large en noir et blanc. Une femme couchée dans un lit, une couette remontée jusqu'aux épaules, les mains attachées au montant avec des liens. La tête était enfoncée dans un sac en papier. Sur ce sac, on avait dessiné des yeux et une bouche grossière. Le menton s'écrasait sur la poitrine. À sa gauche trônait un petit meuble, et sur le mur derrière le lit, de nombreuses photos étaient accrochées, mais il était difficile de voir ce qu'elles représentaient. On aurait dit des silhouettes d'enfants. Les iris noirs du jeune inspecteur se plantèrent dans ceux de l'homme.
« C'est quoi, ça ?»« Je n'en sais rien. Je l'ai trouvé dans une boîte aux lettres. Écoutez !»
Dans tous ses états, l'individu se livra à une explication à laquelle Charcot ne comprit pas grand-chose. Il pria ensuite le flic de retourner le cliché. Là, une adresse avait été tapée à la machine à écrire. Chemin de l'étang, Saint-Forget, Yvelines.
« Je l'oriente vers le groupe d'astreinte, inspecteur ?»
s'enquit le planton. Charcot contempla un instant les lueurs qui tremblotaient au cinquième étage. C'était le groupe Santucci qui était de garde. Dire que son chef, Thierry Brossard et Santucci se détestaient, relevait de l'euphémisme. Ces deux-là se livraient une chasse aux plus belles affaires. Le 36 n'était qu'une gigantesque marmite d'ego.
Rien n'indique qu'il s'agisse d'un crime, répondit-il. C'est peut-être un simple jeu sexuel ou un truc dans le genre. Notez sur le registre l'heure, l'identité et l'adresse de ce monsieur et ajoutez que l'inspecteur Franck Charcot va procéder à un contrôle d'usage sur la base d'une photo suspecte.
Pendant que les deux hommes réglaient ces formalités dans la guérite, Charcot se dit qu'il était en train de commettre une erreur, d'autant plus que, à sa connaissance, les Yvelines relevaient de la compétence de la PJ de Versailles et non de la leur. Autrement dit, ça n'était pas leurs oignons. Mais l'histoire qu'on venait de lui raconter l'interpellait à un point tel qu'il devait en avoir le cœur net. Quand Vasquez en eut fini avec l'administratif, Charcot sortit de son blouson un trousseau de clés, parmi lesquelles celle de sa Renault 21 flambant neuve. Un rêve qu'il s'était offert pour fêter son affectation au 36.
Ça ne vous dérange pas de m'accompagner? Vous allez pouvoir me réexpliquer ça calmement.
Philippe Vasquez aurait aimé refuser, rentrer chez lui et oublier tout ça, mais il perçut dans les prunelles sombres du flic qui le dominait d'une tête un éclat électrique, lui interdisant de le contrarier.